pour tous mes amis. Merci. Merci. Du fond de cœur, pour mes musiciennes, merci. 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 Pour ma femme Pauline, con tout mon amour, merci. Merci. Pour la joie de vivre, pour la musique, merci.
Mardi.
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 Eh bien, vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui, c'est mardi, et comme tous les mardis à midi, la rédaction de Jet FM vous propose d'entendre les choses de manière locale. La voix que vous venez d'entendre en ouverture de cette émission est celle d'un certain Bob Destiny, artiste, pianiste, compositeur, chanteur, danseur, chorégraphe, chef d'orchestre des États-Unis d'Amérique et dont la destinée fut de passer les 15 dernières années de sa vie tout près d'ici, à Clisson. Bob Destiny a quitté cette terre il y a 10 ans, jour pour jour, le 31 mars 2016. Il avait aux alentours de 80 ans. Et nous avons été sensibles à la proposition de Franck Tomley, batteur et percussionniste nantais ici présent, qui nous a suggéré de faire une émission sur ce monsieur à la vie que l'on pourrait qualifier de drôlement bien rempli. 80 années à fond la caisse. À l'âge de 6 ans, il est engagé comme danseur de claquettes dans un groupe de Five Chocolate Drops alors qu'il cirait les chaussures à Grand Central Station à New York. Pianiste autodidacte, puisque le conservatoire, les écoles de musique lui étaient fermées du fait de sa couleur de peau. Il accompagne ensuite Billie Holiday au piano. Il tourne dans plusieurs films à Hollywood dans les années 60. On le retrouve à la fin des années 60 à Alger pour co-créer le festival panafricain de Alger. Dans les années 70, il est en Algérie, il est au Maroc. Il passe une dizaine d'années avant de s'installer en Espagne, où on le retrouve dans les années 80, en pleine Movida. Il crée des groupes de musique, des festivals et même une école de musique. Et puis au début des années 2000, il rencontre une Française, il se marie et il vient s'installer à Clisson. Et là, on le découvre avec le Shango Blues Band, créé de toutes pièces avec des très jeunes musiciens de la région. Il crée également en 2011 une chorale de gospel, de Happy Gospel Singers. Voilà un résumé de quelques éléments autobiographiques pour évoquer donc Monsieur Destiny. Autour de la table du studio de Jet FM aujourd'hui, il y a donc Pauline, la femme de Bob Destiny. À côté de Pauline, il y a Pedro Zapater, un journaliste fraîchement arrivé de Saragosse, journaliste au Heraldo de Aragon, qui prépare un livre sur Bob Destiny. Alors, à ma droite, il y a Ronan Prual, que l'on connaît notamment ici pour jouer de la contrebasse et dans le groupe créatif Notong. et qui était membre du Shango Blues Band, donc l'ensemble créé par Bob Destiné au début des années 2000. Et puis on aura par téléphone Stefano Casta, qui est en Sardaigne et qui prépare actuellement un film, un court-métrage sur la vie de Bob Destiné. Et merci à Jean-Luc également d'être là pour assurer la traduction depuis l'espagnol de la voix de Pedro. Voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup dit, donc je vais céder la parole à Pauline, qui aura peut-être certainement des éléments à nous raconter pour mieux situer la personne de Bob Destiné.
Oui, bonjour, je suis Pauline, donc la femme de Bob, et je vais plutôt vous parler de ma rencontre avec lui, parce que Romain a déjà fait un petit peu le tour de sa vie, très rapidement. Donc, moi, j'ai rencontré Bob en Sardaigne en 1999. Lui était directeur d'un festival à Saint-Massy. Et puis moi, j'étais à l'époque présidente des Italiennes à Clisson. Et j'étais partie à l'occasion avec des amis pour éventuellement trouver des musiciens ou des groupes qui pourraient intervenir sur le festival des Italiennes. Et c'est là que j'ai rencontré Bob. Donc, c'était donc en 99 et Bob est arrivé en France en 2000. Voilà, donc il est arrivé à Clisson, hein, et nous nous sommes mariés en 2001. Et à partir de là, il s'est investi, comme il l'a fait toute sa vie, dans la recherche, dans la musique. Hein, donc, il a cherché des jeunes musiciens qu'il a créé donc un groupe qui s'est appelé Shango Blues Band. Donc, en fait, c'était vraiment Bob. Bob, c'est qu'il voulait absolument transmettre, former les gens. Ça, il l'avait fait toute sa vie, mais c'était vraiment sa passion, hein, d'apprendre, de partager, de créer, puisqu'il écrivait aussi, il était compositeur. Donc, il s'adaptait un petit peu à tous les musiciens, hein, c'est-à-dire chaque musicien avait sa particularité. Donc, en réalité, il s'adaptait. Donc, après ça, il faisait un mélange de tout ça. Et voilà. Donc, il aimait ses musiciens, ça c'est sûr, puisque à chaque fois qu'il y en a un qui quittait le groupe, c'était un gros chagrin. En fait, il était toujours un peu triste, moi aussi d'ailleurs, parce que c'était un peu comme nos enfants. Hein, ils étaient jeunes. On leur faisait des repas, hein, donc pour pouvoir répéter plus longtemps. Et vraiment, c'était un peu comme une famille, en fait. Hein, c'est une période qu'on a passée qui était vraiment très bien. Et puis, bon, c'était pas sans accroc ni petite déception, mais c'est vrai que c'était quand même une belle période. Et puis, par la suite, Bob a donc créé, dans la suite de Shango, en fait, il a créé une chorale de gospel. Sa passion à lui, c'était de créer une chorale de gospel avec des personnes blanches. Donc, il a réussi au départ à trouver, par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle Les Cordeliers, on a créé une chorale qui a accueilli jusqu'à 40 personnes, ce qui était déjà pas mal parce que dans le secteur, personne n'avait l'habitude de chanter du gospel. Hein, donc, voilà. Et après, bon, c'est pareil, on a fait des concerts, on a fait des recherches de concerts et ça a plutôt bien tourné puisqu'en fait, sur la fin de sa vie, Bob a plutôt fait du gospel que travailler avec Shango. Et voilà, donc il était très, oui, très investi aussi là-dessus. Mais là, il menait de front à peu près toutes ses activités. Et il était passionné, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce qu'il aimait, lui, c'était vraiment la rencontre, hein, la rencontre avec les gens. Et ça ne l'empêchait pas d'avoir une vie sociale assez développée, puisqu'il adorait faire la cuisine. Donc, tous les ans, on fêtait la Thanksgiving aussi, puisque c'était une tradition américaine. Donc, c'était lui qui était au fourneau, hein, dans ces cas-là. Voilà, donc... J'aurais beaucoup de choses à dire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes. C'est vrai que c'est assez compliqué de parler de Bob, de le définir, parce qu'il avait vraiment différents aspects de sa personnalité qui fait qu'il s'adaptait un petit peu à tout. Voilà, donc...
Toi, tu l'as rencontré, donc il avait environ...
64 ans.
Ah voilà, plus de 60 ans.
Ouais, moi, j'avais 50 ans, il avait 64 ans.
Donc, il arrivait en France avec déjà beaucoup d'expérience, beaucoup de choses vécues dans sa vie. Qu'est-ce que... Avec quoi il arrivait finalement, avec toutes ces années de vécu?
Pour être tout à fait sincère, je le connais assez peu. Je le connaissais assez peu. Je l'avais rencontré donc une première fois à Saint-Massy. Je suis allée le voir une fois à Saragosse. Et puis autrement, j'étais passée quand même quelques temps à Saint-Massy. D'ailleurs, on est revenus ensemble de Saint-Massy. Donc en fait, je suis allée un petit peu... disons que sans trop réfléchir. Sincèrement, quand Bob est arrivé à Clisson, personne ne le savait. Je débarquais avec un monsieur noir, quand même pas tout jeune. Et ça a été un petit peu la surprise pour beaucoup de gens qui me connaissaient. Mais finalement, tout s'est très bien passé. Donc voilà, on s'est bien mis d'accord, donc il n'y a pas eu de problème. Et donc Bob était... Oui, comme il faisait de la musique, en fait, souvent, il laissait sa porte où, quand il avait son... Au début qu'il était à Clisson, il était à l'étage, il travaillait à l'étage, et donc la fenêtre était souvent ouverte. Et donc, beaucoup de gens s'arrêtaient, l'écoutaient.
Il travaillait au piano?
Oui, il était au piano, quand il était tout seul, mais même avec les musiciens, hein, parce que Ronan est venu beaucoup de fois à la maison, on travaillait avec lui. Mais donc, en fait, les gens s'arrêtaient... Il y a même des gens qui avaient dit à Bob, on a acheté une maison grâce à vous parce qu'on a écouté votre musique et donc on a acheté à Clisson. Bon, je ne sais pas si c'était vrai, mais donc voilà. Et puis...
Il y a beaucoup, les répétitions, certaines répétitions se faisaient à la maison, les musiciens venaient à la maison.
Oui, toutes les répétitions à 1, 2, 3 musiciens. Sinon, la mairie de Clisson nous donnait des salles. Pour répéter, nous prêtait des salles. Donc de ce côté-là, à Clisson, on n'a jamais eu de problème pour répéter. Parce que d'abord, c'était souvent le dimanche matin. Et donc quand c'était le dimanche matin, personne n'occupe de salle. Hein. Donc c'était quand même assez facile. On a eu cette chance-là d'avoir des salles gratuitement tout le temps. Hein. Voilà, mais il fallait quand même transporter tout le matériel. Souvent, c'était moi qui transportais tout. Puis après, les musiciens m'aidaient après les répétitions. Voilà. Donc, ça a été une vie très animée tout le temps. Parce qu'en fait, quand il y avait des répétitions pratiquement tous les jours. Quand ce n'était pas le shango, c'était le gospel. Et voilà. Donc, c'était quand même assez animé. Il faut le reconnaître. Voilà. Donc, et autrement, c'était quand il y avait des répétitions collectives. Voilà, c'était dans des salles. Mmh. Voilà.
Je vous propose qu'on écoute un morceau de musique pour voir un petit peu l'ambiance. On va diffuser plusieurs morceaux de musique pendant cette émission qui vont essayer, avec le temps qu'on a, de montrer la diversité des choses, des créations musicales qu'il a pu faire. La première, c'est un morceau qui s'appelle Wang Dang, qui est une espèce de blues très très énergique et qui donne un petit peu le ton assez funk en fait. Et voilà, et comme ça après on pourra peut-être entendre Ronan Prual pour faire le lien avec ce que racontait à l'instant Pauline sur le Shango Blues Blend et la vie musicale autour de cette maison à Clisson, là, autour de Bob Destiny. Wang Dang. Get down, Si vous ne connaissiez pas, vous venez de découvrir Bob Destiny avec le morceau Wang Dang, qui est un morceau des années environ 1970. On devine, en écoutant ce morceau, un personnage et un animateur capable d'entraîner beaucoup de monde avec lui, je pense. Qu'est-ce que, Ronan, qu'est-ce que l'écoute de ce morceau et ce que nous disait Pauline avant voilà, évoque comme souvenir chez toi et peux-tu nous raconter ces années de vie auprès de ce musicien ?
Oui, je peux essayer. Ben, comme disait Pauline, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon, voilà, on va essayer de piocher des choses qui me reviennent comme ça. En tout cas, déjà, j'ai découvert ce morceau. Je ne le connaissais pas et ça me fait très plaisir d'entendre ça et ça me rappelle... Ça me rappelle des concerts, comme tu disais Romain, cette espèce de scat, des onomatopées, les percussions dans la voix. Et c'était quelque chose qu'il aimait bien faire. Souvent, il y avait un passage dans le concert où il prenait le batteur à partie Et il y avait un espèce de duel comme ça où il faisait des pom 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 et après voilà, le batteur devait le copier, il y avait un échange comme ça et ça finissait avec un sketch. Enfin, voilà. C'était à la fois performance musique, un peu animation, un peu showman. C'était... Donc voilà, c'était exactement le style de ce morceau-là. Bah sinon, qu'est-ce que je peux
comment
raconter ?
Est-ce que tu as intégré le Shango Blues Band et en quoi qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, quoi ?
Eh bien, donc, voilà, donc mon frère Mathieu avait intégré déjà le groupe depuis quelques mois. Il m'en parlait de temps en temps, donc c'est vrai que ça me faisait un peu rêver. En fait, je pense qu'il y avait... Déjà, pour tous les musiciens qui intégraient le groupe, il y avait un peu le côté fantasme incroyable. On est en train de jouer avec un black américain. Le rêve, un peu, quand on aime le jazz, le funk et tout ça, c'était un peu... comme si les États-Unis arrivaient à nous, les légendes du jazz et de la musique afro-américaine. Donc, il y avait cette chose-là. Donc voilà, il m'en parlait depuis quelques mois. On faisait déjà de la musique ensemble avec mon frère.
Ton frère et Mathieu.
Mon frère Mathieu Pruel, voilà,
qui est saxophoniste.
Saxophoniste, à l'époque. Et donc voilà, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, ben voilà, le bassiste est parti, est-ce que ça te dit ? Ok, appelle Bob, j'appelle Bob, hop. Moi, à l'époque, j'étais en... J'avais fini mon bac, donc j'étais en année sabbatique. Donc voilà, j'ai pris ma voiture directe, je suis allé à Clisson avec ma basse. Et puis, je ne me souviens pas exactement ce qui s'est passé, mais voilà, il m'a demandé de jouer pour voir ce qui se passait. On a discuté un peu, et puis il m'a dit, bon ben voilà, tu viens dimanche à la répète. Ok, c'est parti. Et voilà, c'était génial. Voilà, c'était une époque où j'avais soif d'apprendre un max de trucs, j'avais que ça à faire, de passer des heures à jouer de la musique. Donc là, il y avait de quoi s'y coller. Hein. Il y avait un grand répertoire, plein de styles différents. Et voilà, c'était...
C'est lui qui écrivait tous ces morceaux-là que vous interprétiez ?
Voilà, c'était que des compositions. C'était lui qui faisait tous les arrangements aussi, donc quand même pour 20 musiciens. Donc il y avait un pupitre de sax, un pupitre de trombone, trompette. Il y avait souvent au moins deux guitares, des percussions. Il y avait chant lead et souvent des chœurs aussi. Donc ouais, il y avait de quoi faire. Il y avait de quoi faire. Et puis comme disait Pauline, voilà, il s'adaptait aussi. Au niveau de chaque musicien. Et il y avait un truc assez chouette aussi qu'il faisait, c'est ceux qui avaient un petit peu plus. Donc il y avait quand même un peu des disparités de niveau sur ces instruments. Mais donc il y avait ceux qui étaient plutôt, voilà, qui assuraient les choses qui étaient en section, et ceux qui avaient un petit peu plus de moyens d'expression. Et ben, il les faisait venir chez lui. Et puis en fait, il composait un morceau sur mesure pour cette personne. Mais à la fois techniquement, sur mesure, mais surtout aussi au niveau de la personnalité. C'est-à-dire que, voilà, je me souviens que Mathieu, à l'époque, avait eu un chagrin d'amour assez fort, et donc il lui a composé une ballade qui s'appelait Lover Girl, et voilà, qui c'était du sur mesure, quoi, comme chez le tailleur, mais en version musicale. Donc, c'était très, très beau de voir ça. Il a fait ça pour plein de musiciens, et donc, c'était. Non seulement on avait la chance d'avoir eu cette composition un peu pour nous, mais en plus, on avait la chance de la jouer sur scène avec tout l'orchestre derrière qui te soutient, parce qu'on était une bande d'amis aussi à l'époque. Donc, c'est des sensations assez incroyables, quoi, quand même.
C'était un groupe de musique et c'est aussi... Est-ce que c'était une sorte d'école de musique qui ne disait pas son nom ?
Ben oui, on peut dire ça. En tout cas, toujours les musiciens, ils font, il y a une espèce de, on s'apprend des choses les uns les autres, on discute, on échange, on se compare. Dans les moins bons cas, on est un peu en compétition. Dans les meilleurs cas, on est plutôt en émulation et en partage. Et donc dans ce sens-là, oui. Et pour moi, c'est moins une, ça ressemblerait plus par rapport à ce qu'il y a chez nous à une harmonie, peut-être les harmonies municipales, voilà, où les gens venaient. Avec leur instrument, avec leur niveau, ils apprenaient avec parfois le pépé du coin, avec le gamin de 8 ans qui soufflait dans son clairon. Et voilà, plutôt ce niveau-là d'apprentissage. Après, comme les uns les autres, on avait aussi fait des parcours, plus ou moins école de musique, conservatoire, tout ça. Bon, bah, on se refilait les tuyaux, on se refilait des bouquins avec des gammes compliquées, on se donnait des exercices. Et puis très vite, il y avait des groupes qui sont nés de... Deux musiciens du big band qui ont dit « Ah viens, vas-y, on fait un combo de jazz. Ah tiens, on fait un groupe de musique klezmer. Ah tiens, on fait un groupe de funk. Ah tiens. » Donc, Voilà, c'était un club de rencontre aussi.
Et c'était le cas pour toi ?
Eh ben oui, moi j'ai eu la chance de faire un projet avec une des pépites du Shangoulouse Band qui s'appelait Jimmy Fétivo, saxophoniste qui malheureusement est décédé pendant le Covid, beaucoup trop jeune, qui nous a quittés. Mais on a eu la chance de faire un combo de jazz avec Jimmy. Il y avait donc Mathieu, mon frère, aussi au sax. Il y avait Newton Bonga qui était un pianiste angolais qui faisait ses études en France et qui avait un jeu incroyable aussi. Et puis Gaëtan, qui était pas, voilà, le batteur qui n'était pas de l'école Shango. Mais voilà, on a fait ce groupe qui s'appelait Schizofriends. Et ouais, c'était une très belle aventure. Il y a eu, après, voilà, je ne vais pas citer tous les groupes, mais il y a eu le Bermuda Brass Band aussi, un brass band qui a été formé par, une équipe de cuivre et de soufflant de Shango. Voilà. Moi, mes groupes, mais il y en a encore quelques poignées qui existent et qui sont nés à ce moment-là.
Est-ce que, en fait, cette façon de faire de la musique en réunissant beaucoup de gens, déjà, visiblement, ce sont des grands ensembles qui plaisaient à Bob Destiny, des gens qui avaient une formation musicale, qui n'étaient pas forcément encore professionnels, en tout cas, de pouvoir réunir ces gens-là, pouvoir leur transmettre ses connaissances, quoi, ses expériences, et amener d'autres gens, certainement aussi plus amateurs, peut-être notamment, c'était le cas dans le groupe de gospel.
Ah oui, c'était vraiment des amateurs. Ouais. Ouais, c'était vraiment des amateurs, les chanteurs. Ouais. Il n'y avait pas de professionnels.
C'est une façon, je me dis, de faire de la musique qui est assez festive, je pense, dans la tonalité, joyeuse dans ce qu'on a pu entendre aussi tout à l'heure, et populaire, quoi. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir un niveau, d'avoir terminé le troisième cycle du conservatoire pour avoir le droit de faire de la musique avec Bob Destiny.
Non, je dis souvent, Bob, il aurait pu faire chanter une pierre. Hein, parce que quand il s'y attaquait, il s'y attaquait. Hein. Donc, il a même fait chanter, d'ailleurs, à son dernier concert, qui était à Sautron, concert de gospel, là, du coup. Il a fait chanter un garçon qui est handicapé. Il l'a aidé avec des chanteuses qui étaient là, mais quand même... Il a osé, parce que quand même, Maxime n'était pas, c'était pas un grand chanteur, quoi. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et c'est un souvenir pour lui inoubliable. Hein. D'ailleurs, c'était le dernier concert que Bob a fait. Et puis, il est décédé 3 semaines après. Parce qu'il a fait son dernier concert 3 semaines avant de mourir, quoi. Voilà.
Ouais, pour compléter ce que dit Pauline, moi... Par rapport à ce qu'on connaît, les mots qu'on utilise ici en France, c'est plutôt l'éducation populaire, en fait, qui faisait Bob. C'est-à-dire que c'était tout sauf tu vas passer des diplômes, tu vas apprendre le solfège. Voilà. Ce qui, pour moi, en fait, est la manière normale, naturelle de faire de la musique, en fait. C'est quelque chose qui nous fait du bien, dont on a envie, qu'on partage avec des gens. Et c'est pour ça qu'on le fait. Après, éventuellement, on passe par des formations, on trouve des moyens... On a envie de se spécialiser, voilà, je vais y arriver. Mais voilà, l'idée c'était, pourquoi aussi il y avait des grands ensembles avec Bob, c'est parce que lui il avait envie, tout le temps, il avait envie de rencontrer des gens, de partager avec des gens. Et dès qu'il trouvait des gens qui avaient envie, il leur disait oui. Il n'était pas très bon forcément pour dire non, donc, donc du coup ça aurait pu continuer comme ça à l'infini presque. Donc ouais.
Continuer de faire grossir l'ensemble, c'est ça ? Tout le monde pouvait avoir sa place.
Oui, voilà. Quoi. Puis nous, à l'époque, dans nos recherches aussi de performance et de spécialisation, des fois, on se disait, bon, bah, c'est un peu branlant. Si on était un peu plus comme ci, comme ça. On avait déjà un peu nos idées de pré-musiciens professionnels. Et parfois, d'ailleurs, avec Bob, il y avait des petites frictions où on ne comprenait pas comment il faisait les choses. Nous, on aurait fait autrement. Bon, voilà. Du haut de nos 20 ans, on avait déjà des certitudes un peu. On avait l'impression d'en avoir. Donc, mais voilà, avec rétrospectivement, voilà, c'est vraiment ça qu'il a fait. C'est la générosité de donner ça aux gens, de partager. Et aussi, c'était un échange, parce que lui, il avait, en tout cas, moi je parle pour le Shango, il avait du coup une bande de 20-25 jeunes musiciens, musiciennes qui avaient envie, qui avaient une énergie débordante. Et du coup, lui, il avait cette espèce de boule d'énergie. Et il pouvait l'utiliser, la modeler, surfer dessus, et puis ça l'emmenait aussi. Nous, on lui donnait beaucoup, et il nous donnait beaucoup, donc c'était ça qui était fort, en fait, je pense.
Et bah, cette façon de faire de la, En fait, lui ayant appris en autodidacte, n'ayant pas accès aux écoles, c'était aussi la façon d'apprendre et de se mettre à la musique pour tous les musiciens jazz américains dont il était issu, finalement.
Bah oui, c'est ça. Et puis de toute façon, toutes les musiques plus traditionnelles dans les cultures où il n'y a pas d'enseignement de la musique, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe. C'est par le bouche à oreille, quoi.
On va écouter un autre extrait de la discographie de Bob Destiny. C'est un morceau qui s'appelle Calenda Rock. Donc, morceau des années 50, une balade folk rock. Et puis après ça, on continuera la discussion avec Pedro.
I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried. Aye, aye, aye. Aye, aye. I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried. I'm up all night through, and I'm up all day too. I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. I met my love on Calenda Rock one bright and sunny day. Aye, aye, aye. When I returned to Calenda Rock, my love had gone away. I cried the whole night through, and I'm on the whole day too. I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried. Ay, ay, ay. I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. I lost my love on Calenda Rock. Oh, I cried and cried.
Voilà le morceau Calenda Rock de Bob Destiny. Alors, on est toujours en studio à Jet FM pour évoquer la figure de ce personnage hors norme. Donc aujourd'hui, on a un monsieur qui s'appelle Pedro Zapater qui vit à Saragosse, qui est journaliste au journal Le Heraldo de Aragon, je crois, et qui a décidé de rédiger un livre sur Bob Destiny. Alors, il se trouve qu'il va nous raconter, mais il vient de Saragosse, et Bob Destiny a vécu une dizaine d'années là-bas en étant assez actif. Donc, bonjour Pedro, hola.
Hola, bonjour, hola.
Bienvenue ici, et ben voilà, tout simplement, peux-tu nous raconter cette idée d'écrire un livre sur ce personnage? Qu'est-ce qu'il t'a pris?
Premièrement, je ne parle pas français. Lo siento, no hablo francés.
Donc Pedro dit qu'il ne parle pas français. Et donc, je vais traduire après ce qu'il a parlé, chacune de ses phrases.
Bueno, yo soy un periodista cultural de Zaragoza, de España, y estoy muy contento de estar aquí, tener la oportunidad de venir aquí para hablar sobre Bob. A mí me interesa mucho, escribo sobre música, sobre cine, teatro, y me propusieron escribir un libro sobre un músico o músicos de Zaragoza.
Donc, Je viens de Saragosse, je suis journaliste, et je m'intéresse à la musique, au théâtre, à différentes choses. Et on m'a proposé de faire un livre sur Bob Destiny, et je suis là pour ça.
Bueno, me propusieron un libro de músicos y yo enseguida, el primer nombre que me vino fue Bob. Y,
oui, donc on m'a proposé d'écrire un livre sur un musicien et tout de suite le premier auquel j'ai pensé c'était Bob Destiny.
Porque me parecía un artista tan polifacético que había sido bailarín, coreógrafo, músico, pedagogo.
C'était donc quelqu'un qui avait tellement de facettes. Il était musicien, il était pédagogue, il faisait du théâtre, il composait. Et donc, tout de suite, j'ai pensé à lui.
Y me llamaba mucho la atención que un músico, un artista norteamericano, un día aterrizase en mi ciudad y decidiese quedarse a vivir y a trabajar y a hacer música durante casi 20 años.
Oui, ça a vraiment attiré mon attention qu'un grand musicien d'Amérique du Nord, enfin des USA, vienne s'installer et reste presque 20 ans à Saragosse.
Mm-hmm. Bob llegó a Zaragoza a principios de los años 80 y comenzó trabajando como director artístico del teatro Oasis.
Donc il est arrivé au début des années 70. Et il a commencé à travailler comme directeur d'Oasis, du théâtre Oasis.
Oui. Al mismo tiempo, él también creó un ballet allí en Zaragoza y también actuaba en varios locales, varios clubes de jazz.
Donc, rapidement, il a créé un ballet. Et parallèlement, il jouait dans beaucoup de lieux où on fait du jazz.
Enseguida, atrajo la atención de músicos de la escena local, porque Bob tenía, quienes lo conocen aquí o lo conocieron aquí también, tenía un magnetismo especial, porque además era un músico muy talentoso.
Donc il a tout de suite attiré l'attention sur lui des musiciens locaux parce que c'était vraiment quelqu'un qui avait un grand talent et donc il les a attirés vers lui.
Mm-hmm. Ya en los años 90 formó una banda de jazz que era la Harlem Blues Brass Big Band en el barrio donde vivía.
Donc dans les années 90, il a créé un groupe qui s'appelle Harlem Big Band.
Harlem Blues. Harlem Blues Brass Big Band.
Voilà. Et dans son quartier, il a créé ce groupe.
Et en même temps, en un centre culturel, créé un aula de jazz pour enseigner tout ce qu'il savait.
Et en même temps, il a créé une école de jazz.
Además, creó un festival de jazz que se llama porque se sigue celebrando Jazz al Margen.
Et il a créé aussi au même moment, pendant la même époque, un festival de jazz qui continue à exister et qui s'appelle Jazz à la marge, donc ou en français Jazz à la marge.
Uh-huh. Sí, porque se llama así porque el barrio donde vivía está al margen del río.
Et tout ça parce que l'endroit où ça se passait est en bordure, donc à la marge de la rivière.
Bueno, el resto de la historia creo que ya la habéis empezado a contar cuando él estuvo de Zaragoza, marchó a Cerdeña y luego ya acabó aquí en Clisson. Y a mí como escritor de este libro, mi reto es contar toda su historia desde que nació en Puerto Rico hasta que vivió su última etapa en Clisson. Y para mí el reto es dónde termina la realidad y empieza la leyenda, o al revés.
Donc, il a fini par s'éloigner de Saragosse, il allait en Sardaigne. Ensuite, il a continué vers Clisson en France. Et donc moi, mon idée, mon travail, c'est d'essayer, sur la base de toute cette histoire, de trouver les limites entre la réalité et
la légende.
Entre la légende et la réalité, quoi.
Voilà. Por eso decidí que lo mejor era que me contaran la historia, su historia, la historia de Bob, su familia, sus amigos, los músicos con los que Bob tocó.
Oui, c'est pour ça donc que je suis venu ici pour voir sa famille ici à Clisson en France, les amis et ses amis et les musiciens avec lesquels il a joué.
Porque en un principio cuando yo empecé a investigar había algunos aspectos de Bob que parecían, la verdad es que como tuvo una vida de película, parecían increíbles, pero luego investigando, pues me he dado cuenta que es verdad todo aquello, ¿no? Las películas que hizo, por ejemplo, en Hollywood.
Donc oui, je à partir du moment où j'ai commencé à faire de la recherche donc sur la vie de Bob, il y avait des choses qui me semblaient un peu comme un film. Je ne savais pas trop ce qui était mythe et réalité. Et donc, c'est pour ça que je viens ici, pour essayer de faire la part des choses, quoi.
Por ejemplo, la película Cleopatra de Joseph Leo Mankiewicz, pues claro, cuando yo a mí me lo leí, no me lo creía hasta que sí que he visto las imágenes y efectivamente Bob trabajó en esa y en otras películas.
Oui, donc quand j'ai su qu'il avait joué dans le film Cléopâtre, ça me semblait incroyable jusqu'à ce que je vois le film et vraiment là, oui, on le voit.
Merci Pedro.
Merci beaucoup.
Le livre sera publié à la fin de l'année 2026
sí,
en
oui.
Espagne.
En Espagne. Me gustaría que también tuviera una edición en francés para que se pudiera conocer aquí.
Oui, donc Pedro aimerait bien aussi qu'il y ait une édition en français de son livre, bien sûr.
Voilà, donc le message est passé. On va écouter un nouveau morceau d'une autre couleur, un morceau qui s'appelle Mojo Man. Je ne sais pas qui est ce Mojo Man, si c'était autobiographique. En tout cas, c'est un morceau jazz, mais plutôt avec une couleur afro-cubaine, avec Bob au chant, je pense, et une équipe de choristes qui lui répondent. Voilà.
Non, c'est pas Bob au chant.
Ah, c'était pas Bob au chant. C'est
Mathieu. C'est, ouais, c'est mon frère.
Ah, très bien. Donc on écoute Mojo Man.
Mojo man.
Voilà le morceau Mojo Man de Bob Destiné, joué, interprété par le Shango Blues Band. Shango Blues Band, qui était donc un grand ensemble créé par Bob Destiné au début des années 2000, du côté de Clisson. Alors, pour poursuivre et s'approcher de la fin de cette émission, nous allons entrer en contact avec un monsieur qui s'appelle Stefano Casta, qui vit tout simplement en Sardaigne. Et Stefano Casta, qui a connu Bob Destiné alors qu'il était encore jeune musicien, guitariste en Sardaigne, alors que donc Bob Destiné était invité à collaborer à un événement musical, un festival de musique, je crois. Stefano Casta, il se trouve qu'il prépare un film, un court-métrage dans un premier temps, il va nous raconter ça. Bonjour Stefano, si vous nous entendez, ciao.
Bonjour à tout le monde.
Et c'est super, ça fonctionne.
Ça fonctionne très bien.
Parfait. Donc, merci d'être disponible, Stefano.
Merci à vous pour cette invitation.
Alors, vous savez qu'ici, au studio, donc on est à Nantes. Hein. Oui, vous savez qu'il y a autour de la table, il y a Pauline qui est là.
Il y a Pauline. Salut Pauline, ça va?
Il y a Ronan Prual qui était musicien du Shango Blues Band à la contrebasse avec Bob Destiné dans la première décennie des années 2000.
Je le connais très bien.
Ciao Stéphane.
Ciao Ronan.
Il y a à ma droite un formidable musicien batteur nantais qu'on n'a pas entendu, mais qui s'appelle Franck Tomlet, qui est bien connu ici dans la région. Et il y a également Pedro Zapater, donc un journaliste espagnol qui prépare un livre et que voilà, dont vous avez peut-être entendu parler.
Oui, bien sûr.
Vous préparez un court-métrage, un long-métrage. Vous avez pas mal de projets, je crois, sur la vie ou sur votre rencontre avec Bob Destiné. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui vous a pris?
Oui, bien sûr. C'est vrai que j'ai plein de projets. Alors, je tiens à préciser que je ne vis pas tout le temps en Sardaigne, mais je partage ma vie entre Nantes et la Sardaigne, notamment Oristano, sur la côte est de la Sardaigne, où il y a un très beau temps, des belles côtes, etc. Mais je passe pas mal de temps sur Nantes et en Bretagne aussi. Donc, pour parler du projet cinématographique, disons que, alors, il y a déjà à dire que moi et Bob, on s'est rencontrés il y a, je crois, à peu près 27 ans. D'abord pour jouer ensemble, tout simplement, mais après, on est devenus très proches. On est devenus amis. Et par la suite, quand il a déménagé en France, un peu plus tard, je l'ai rejoint pour faire des projets. Par exemple, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est moi qui l'ai enregistré parce que je suis ingénieur du son aussi. Et à l'époque, je suivais les productions discographiques de Bob Destiné. Récemment, il y a quelques années, je me suis reconverti à la réalisation cinéma. Et parmi les premiers projets que j'ai envie de produire et réaliser, il y a sûrement l'histoire de Bob, l'histoire de sa vie, mais aussi son caractère nomade et surtout la manière dont il a atterri en France. C'est ça qui m'a intrigué parce que Bob, en fait, il a voyagé énormément. Il parlait, je crois, 9 ou 10 langues, peut-être pas très bien, mais il arrivait à se faire comprendre dans chaque bout du coin du monde. Alors, il était vraiment très, très, comment dire, cosmopolite. Donc, ça m'a toujours intrigué, cet esprit nomade, cette multiculturalité. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai assisté à un moment de sa vie assez important, crucial, j'ai envie de dire. C'est la rencontre avec Pauline. Donc, mon film parle aussi d'amour, bien évidemment, parce que je trouve que c'est quand même le moteur qui fait fonctionner à peu près tout. Et aussi le départ en France. Et c'était la première fois que Bob s'installait pour de vrai à un endroit. Il s'arrêtait vraiment. Et par la suite, je n'ai jamais entendu dire « j'ai envie de partir, j'ai envie de faire un autre voyage, une autre expérience, etc. » Il était vraiment bien à Nantes, à Clisson. Il avait fait plein de rencontres avec plein de musiciens extraordinaires qui ont donné vie aussi à tout un tas de projets, notamment le gospel, le Shango Blues Band et plein d'autres choses. Donc, je pense que au fond de moi, il y a, je ne sais pas, une dette morale envers cet homme qui m'a beaucoup donné. Il était très, très, très généreux avec moi, mais avec tous ceux qui l'entouraient. Ça, c'est, ça, il faut le reconnaître, c'était quelqu'un de vraiment généreux. Il donnait tout son art, toutes ses connaissances. Il était vraiment pas jaloux de son savoir. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, je sens vraiment que je lui dois beaucoup pour mon parcours artistique, par rapport à mon parcours artistique et humain aussi. Parce qu'on a partagé quand même pas mal de choses ensemble, de la vie. Et aujourd'hui, je pense que c'est bien de raconter au grand public l'histoire de ce personnage. Qui était extraordinaire. On n'en rencontre pas beaucoup de gens comme ça, Tom Bob.
Très bien, donc c'est de ça dont parlera le court-métrage, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Une fiction ou un documentaire d'ailleurs ?
C'est une fiction.
Ok. Et quel aspect de la personnalité sera l'élément essentiel, on va dire, quoi. C'est quoi ? C'est la générosité, la transmission, le fait de se relier aux autres, en fait.
Je pense qu'il y aura sûrement cette capacité d'attirer énormément de monde autour de lui. Il était vraiment magnétique. Du coup, il y avait vraiment toujours beaucoup, beaucoup de monde autour de lui. Mais je pense qu'il y aura vraiment un élément de conflit qui sera vraiment central. Parce que je pense qu'au fond de lui, il y avait quand même des éléments en conflit entre ses origines, ses voyages, ses projets et cette dernière phase de sa vie où il était en France, voilà, où il avait vraiment changé d'environnement. Du coup, je pense qu'il y a le conflit, il y aura aussi l'élément de la suite, parce que je m'interroge aussi pourquoi Bob était tout le temps en voyage, pourquoi il changeait d'endroit si souvent. Et je pense qu'il y avait une certaine inquiétude en lui qui l'amenait à pas vouloir se fixer à un endroit. Quelque chose a changé en France avec Pauline, bien évidemment. Et du coup, je pense qu'il y aura cet élément de conflit qui l'a amené à la fuite. Voilà. Okay. Il y aura pas mal de conflits qui vont se résoudre à un moment donné.
J'ai l'impression que musicalement, il n'était pas très accroché quelque part non plus, finalement. Quand je vois... moi, je comprends que c'est un personnage boulimique de travail, de création, qui devait assez peu se poser, et qui recherchait toujours à faire des nouvelles choses. Donc, je pense que ça doit être assez cohérent avec cette notion de voyage et de toujours quitter des choses pour en découvrir des nouvelles, quoi.
Complètement. Et ça fait partie aussi de la façon dont il se relationnait avec les musiciens. Il était, comme vous le dites, boulimique d'informations. Il pouvait rencontrer n'importe qui et absorber de façon instantanée le langage du musicien qu'il avait en face et le réélaborer presque en temps réel. Et il avait cette capacité d'analyse, de réélaboration et de mélanger les styles musicaux. Bien évidemment, son style musical d'origine, c'est le jazz. Il ne faut pas oublier qu'il a vécu depuis son enfance à New York, dans le milieu du jazz. Mais après, toute la musique du monde et les autres styles musicaux l'ont carrément influencé dans sa façon de composer.
Pauline, est-ce que tu souhaites réagir, ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Stefano sur,
cette... Il a tout à fait raison, hein. C'est exactement ce que Stefano dit. D'ailleurs, il le connaît aussi, il le connaissait très bien, même avant moi, hein, Stefano. Mais oui, je pense que ça va être c'est vraiment ça ce qu'il dit. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse dire beaucoup de choses de plus. C'est vrai que Bob s'est fixé à Clisson parce qu'il a trouvé là un lieu où il a pu se poser, chose qu'il n'avait jamais trouvé. Nulle part. Hein. Il s'est trouvé quand même dans certains endroits, mais c'était toujours avec l'idée de repartir. Ça, de ce côté-là, Stefano a totalement raison. Voilà, donc je pense que c'est juste, très juste.
Pedro?
Bueno, me gustaría decir que me parece estupendo que Stefano lleve adelante este proyecto, porque el lenguaje es, la música, perdón, es un lenguaje universal.
C'est vraiment super que Stefano se lance dans ce projet de film, parce que la musique, tu voulais dire
Es un lenguaje universal.
Est un langage universel.
Et Bob era un transmisor estupendo.
Et Bob transmettait ça très bien.
Y eso pues hace que 10 años después de su muerte estemos hablando de él, recordándolo, y haciendo proyectos porque vamos y poniendo en valor todo lo que hizo.
Et voilà, c'est pas surprenant que 10 ans après sa mort, on soit là à avoir encore des projets pour parler de lui.
Así que enhorabuena, Stefano, y en cualquier cosa que te pueda ayudar, estaré encantado.
Et donc Stefano, tu peux compter sur moi si tu en sens le besoin. Voilà, je suis disposé à participer.
Pedro.
À te répondre.
Merci Pedro, sache que tu viens de te compromettre.
Il a compris, oui.
Oui.
Et bien voilà que l'émission se termine, on se salue en écoutant un dernier morceau, alors un morceau gospel pour essayer d'aller vers la fin de carrière de Bob Destiny, un morceau qui s'appelle tout simplement Glory, Glory, Hallelujah, qu'on écoutera malheureusement, à mon avis, pas en entier, mais qui donnera un aperçu du travail réalisé avec les Happy Singers, donc une chorale gospel de Clisson. Et donc, c'est un morceau qui a dû être enregistré dans les années 2010, entre 2010 et 2015-2016, j'imagine, enregistré par Stefano. Merci Stefano, bonne fin de journée, bonne suite de journée sur Jet FM. Merci à toutes les personnes ici présentes. Et voilà, n'hésitez pas à vous tenir au courant de l'actualité de Bob Destiny, donc un livre qui sera publié d'abord en espagnol, et puis un jour, un petit peu plus tard, un premier court-métrage donc, par Stefano Casta. On écoute Glory, Glory, Alléluia.